café de Sèvres. Au café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga.
Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet assez essentiel dans l'Église catholique. Il s'agit des dogmes. Les dogmes. On en a beaucoup parlé, on en a entendu tous parler, et il y a pas mal d'idées reçues là-dessus. Pour en discuter, nous allons recevoir le Père Michel Fédoux. Bonjour, Père.
Bonjour.
Alors, le Père Fédoux est un enseignant ici au Centre Sèvres, professeur de théologie, lauréat du prix Ratzinger. C'est un honneur pour nous, Père, de vous avoir ici. Alors, rapidement, parce qu'il y a plusieurs idées reçues sur la question des dogmes, comment est-ce qu'on peut définir un dogme? C'est quoi au juste?
J'ai envie de dire que, de cette manière, les dogmes, c'est en quelque sorte la carte d'identité des chrétiens. Mm-hmm. Je dirais que les dogmes fournissent des repères fondamentaux. Bien sûr, le christianisme est d'abord une vie, c'est de l'ordre de la vie.
Oui.
Mais on voit bien, dès les origines, le christianisme est porteur de croyances fondamentales qui résument l'essentiel de la foi. Et les dogmes, au fond, ce sont les affirmations essentielles de cette foi chrétienne.
D'accord. Alors, en parlant justement, parce que vous avez évoqué à l'instant, depuis les origines, vous avez parlé des origines chrétiennes, mais y a-t-il toujours eu des dogmes dans l'histoire de l'Église? Y a-t-il un moment dans l'histoire de l'Église où on peut dire, là, ça y est, les dogmes ont commencé ici, ou alors c'est quelque chose qui a toujours été présent d'une manière ou d'une autre? Au fond, quelle est la genèse des dogmes?
En fait, le mot dogme lui-même, est un mot qui, certes, existait dans le monde ancien, mais qui n'avait pas, en général, le sens que nous lui donnons aujourd'hui. C'est surtout à l'époque moderne que le sens actuel du dogme, du mot dogme, s'est précisé. Je dirais qu'aux origines, dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme, dès le Nouveau Testament d'ailleurs, on parlait essentiellement de l'enseignement. Alors on employait le mot didaké, qu'on peut traduire par doctrine, si on veut, enseignement, mais on peut dire que de façon générale, dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme, on n'entendait pas, on n'utilisait pas d'abord le mot dogme, qui était plutôt compris au sens de opinion. Le dogme, c'est ce qui paraissait, c'est au fond l'avis que l'on avait sur tel ou tel sujet, la croyance que l'on avait. Dans le christianisme ancien, on utilisait plutôt en général des termes comme les vérités du christianisme, ou encore les articles de foi, ou les enseignements fondamentaux du christianisme. Il y avait des exceptions, en particulier au 5e siècle, il y a eu un auteur qui s'appelle Vincent de Lérins qui a employé le mot dogme dans un sens vraiment assez proche de celui que nous lui donnons aujourd'hui. Mais dans le christianisme ancien, c'était plutôt d'autres mots, d'autres périphrases aussi qui étaient employées. Par contre, le mot dogme a été employé de plus en plus à l'époque moderne dans le sens que nous lui connaissons aujourd'hui pour désigner des vérités ou des enseignements absolument essentiels de la foi chrétienne et reconnus comme tels par la communauté ecclésiale.
C'est très intéressant ce que vous dites. Justement, vous parlez de vérité. Mais alors, je peux me tromper là-dessus, hein. Malheureusement, je ne suis pas tellement un expert. Je suis moi aussi victime de ces idées reçues sur les dogmes. Mais le dogme, au fond, est-ce qu'il n'enferme pas un peu le croyant? Parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais quand on regarde dans l'histoire de l'Église, des personnes ont été envoyées au bûcher pour avoir été jugées hérétiques. On a dit, voilà, il y a un dogme de l'infaillibilité pontificale. Peut-être qu'on ne le comprend pas très bien, mais l'idée, c'est peut-être que sous certaines conditions, le pape peut donner des vérités ou des opinions infaillibles. Mais alors, si on en arrive au point où c'est infaillible, si on en arrive au point où on a pu condamner des gens à mort parce qu'ils pensaient différemment, est-ce qu'au fond, le dogme n'enferme pas le croyant dans une forme de case? Et j'ai aussi envie de demander, les dogmes qui ont été établis, disons, il y a 2000 ans ou plusieurs siècles, si on devait les repenser aujourd'hui, devrait-on dire de nouveau qu'ils sont des dogmes? Parce que les méthodes qui ont peut-être été employées pour juger que telle chose était dogmatique, peut-être qu'aujourd'hui, si on les examinait, nous ne dirions pas que c'était des dogmes.
Alors en fait, je pense qu'il faut distinguer plusieurs points de vue.
Tout à fait.
Tout d'abord, c'est vrai que dans l'histoire, malheureusement, on s'est parfois servi des dogmes, on a parfois invoqué les dogmes comme un instrument d'exclusion violente vis-à-vis de ceux qui n'étaient pas chrétiens. Malheureusement, c'est une dérive. Et il faut absolument reconnaître cette dérive et la dénoncer aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même au cœur du christianisme un certain nombre d'enseignements, de vérités fondamentales qui font l'objet de la confession de foi chrétienne. Et je crois qu'il est très important de tenir cela, même si, encore une fois, le christianisme est d'abord de l'ordre d'une vie, une expérience de vie. Il s'exprime à travers un certain nombre d'affirmations fondamentales, comme par exemple la foi en l'incarnation, la rédemption, le salut, etc. Ce que je dirais, c'est que de toute façon, il faut s'entendre aussi sur le sens exact du mot dogme, parce que tout enseignement de la part de l'Église n'a pas le même poids. Tous les enseignements, toutes les vérités ne sont pas exactement du même ordre. Par dogme, si on entend le mot au sens strict, on entend vraiment, je dirais, des affirmations tout à fait essentielles de la foi. Or, à ce point de vue, déjà dans l'Antiquité, il y a un certain nombre d'affirmations fondamentales de la foi qui, si je puis dire, faisaient l'objet d'une possession tranquille. Je prends un exemple. Le dogme de la rédemption, comme tel, n'a pas fait l'objet d'une définition dogmatique durant les premiers siècles de l'histoire de l'Église, même si plus tard, bien sûr, le Concile de Trente en a parlé, la justification par la foi, etc. Mais c'était reconnu comme une affirmation tout à fait constitutive de la foi chrétienne. Alors, par contre, il y a eu un certain nombre de formulations doctrinales qui ont été demandées par soit un concile œcuménique, ou soit par certains papes, en particulier à l'époque moderne, le dogme de l'Immaculée Conception en 1854 ou le dogme de l'Assomption en 1950. Donc il y a un peu les deux types de dogmes. Il y a ceux qui, je dirais, reposent sur des affirmations qui, depuis les origines pratiquement, ou depuis les premiers siècles de l'histoire du christianisme, faisaient partie de l'enseignement courant de l'Église. Ils ont ce qui relève, comme on dit de façon technique, du magistère ordinaire et universel de l'Église. Et puis, il y a une autre catégorie de dogmes, ce sont les enseignements qui ont été promulgués par un concile œcuménique ou par un pape et qui relèvent de ce qu'on appelle plutôt le jugement solennel de la part de l'Église.
Très intéressant. Alors, il y a quand même un constat un peu étonnant, c'est que malgré... J'ai parlé tout à l'heure du dogme de l'infaillibilité pontificale, mais on voit que l'Église, du moins ces derniers siècles, a établi très peu de dogmes. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense qu'au XXe siècle, il n'y en a eu qu'un seul, voilà, celui de l'Assomption. Au XIXe siècle, il y en a eu peut-être deux. Mais on voit que dans les premiers siècles de l'Église, il y a eu plusieurs conciles œcuméniques avec pas mal de dogmes, ceux de la Trinité, sur la nature du Père et tout ça. Et ensuite, pas tellement, et puis on arrive au 19e, on en a peut-être deux, 20e peut-être un, et là, 21e siècle, plus du tout. Est-ce qu'il y a une forme de peur ou de prudence, peut-être, du côté du pape, des évêques? On ne veut pas trop se prononcer sur certaines questions, peut-être parce qu'on a peur, enfin, je pose juste la question, et je suppose, est-ce qu'il n'y aurait pas comme une forme de peur, peut-être, que si... on affirme quelque chose comme dogmatique, comme faisant partie intégrante de la vérité chrétienne, ça enfermerait les gens, alors qu'aujourd'hui nous vivons à une ère, disons, où le relativisme a un poids important dans nos sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de peur là-dessus?
Oui, alors je crois qu'il y a évidemment plusieurs choses à considérer. Tout d'abord, bien sûr, ça vaudrait la peine de s'arrêter sur le dogme spécifique de l'infaillibilité qui était promulgué par au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, donc, le Concile du Vatican I, premier Concile du Vatican. En fait, c'est un dogme qui mérite d'être replacé dans son contexte. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, à ce qu'on croit souvent, en fait, le domaine dans lequel s'applique l'infaillibilité pontificale est un domaine relativement restreint. Il s'agit vraiment, ça porte uniquement sur des vérités qui sont absolument essentielles à la foi chrétienne. Voilà. Donc, je crois qu'il y aurait effectivement beaucoup à dire sur ce dogme de l'infaillibilité, mais pour en rester plutôt à la question plus générale, plus fondamentale que vous souleviez juste après, Je dirais ceci, c'est vrai que nous sommes dans une ambiance qui est facilement relativiste, on est porté souvent à croire que tout se vaut, et par rapport à cela, le dogme peut être perçu, ou risque d'être perçu malheureusement, comme ce qui empêche les gens d'être vraiment libres, comme une sorte de carcan qui leur est imposé. Il faut être conscient de cette difficulté. En même temps, être conscient de cette difficulté ne signifie pas qu'on puisse ou qu'on doive renoncer à formuler, évidemment, des affirmations tout à fait essentielles à la foi chrétienne. Et ça, c'est précisément le sens des dogmes. Alors, pourquoi y a-t-il relativement peu de dogmes à l'époque contemporaine ? Je crois que, certainement, il y a une grande prudence de la part de l'Église. On ne peut se prononcer sur un dogme, on ne peut promulguer un nouveau dogme. Un concile ou un pape ne peut promulguer un nouveau dogme que dans des conditions extrêmement précises. Il s'agit de vérifier que ce dogme est conforme à l'Écriture, ou tout au moins qu'il n'est pas contredit par l'Écriture. Il s'agit aussi de veiller à ce que cette doctrine réponde à une aspiration de beaucoup de chrétiens dans le monde. Mmh. C'est intéressant de savoir que avant de promulguer le dogme de l'Assomption, en 1950, le pape Pie XII a consulté l'ensemble de l'épiscopat, qui a donné une réponse très majoritairement favorable. Mmh. Alors, je dirais pour ma part aussi, c'est un point tout à fait important, bien sûr, on pourrait imaginer qu'il y ait de nouveau des formulations, des promulgations de dogmes à l'avenir, mais ça ne peut pas se faire sans condition, ça doit se faire avec une très très grande prudence, et surtout, c'est peut-être un point qu'on va encore aborder, oui, ça supposerait un consensus avec les autres églises chrétiennes.
Je trouve tout cela très intéressant, mais j'aimerais m'arrêter, si vous voulez, à cette question des restrictions, parce que vous en avez parlé, vous avez dit que le pape ne peut pas se lever un bon matin et déclarer que telle ou telle chose est dogmatique, en fait. Le dogme de l'infaillibilité pontificale ne s'applique que dans des conditions bien restreintes. Mais en fait, quelles sont ces conditions ?
Oui, c'est une question vraiment importante. À l'époque contemporaine, il y a eu parfois, après Vatican II, une certaine tendance à vouloir faire passer comme doctrine absolument essentielle des doctrines qui étaient seulement secondaires. Mmh. C'est ce qu'on appelle un processus ou un risque de dogmatisation un peu indu. Mmh. Et donc, par rapport à cela, il faut au contraire retrouver un sens juste des conditions qui permettent la promulgation d'un dogme. C'est intéressant de savoir que lors du premier concile du Vatican, donc 1870-1871, le fameux concile donc, qui a parlé de la primauté du pape, et c'est dans ce cadre qu'a été justement promulgué le dogme de l'infaillibilité. C'est intéressant de savoir qu'à cette époque, il y avait des opinions diverses parmi les évêques. Certains évêques avaient une position en quelque sorte maximaliste. Ils pensaient que effectivement, le dogme de l'infaillibilité pouvait s'appliquer à beaucoup, beaucoup de domaines. Mais à l'inverse, il y avait une position plutôt minimaliste qui disait non, l'application du dogme de l'infaillibilité doit être extrêmement restreinte et on ne peut promulguer de dogme que dans certains domaines quand il y a vraiment un enjeu tout à fait essentiel, vital pour la foi chrétienne. Et il y avait entre les deux évidemment tout un éventail de positions. Et c'est finalement la position moyenne qui a été retenue. C'est-à-dire, on a été conscient du fait que pour qu'on puisse promulguer un dogme, eh bien, il fallait vraiment qu'il y ait un enjeu absolument essentiel, décisif pour la foi chrétienne elle-même.
Alors, pour finir, j'aimerais aborder maintenant la question de l'écriture, voilà, parce qu'on sait que le dogme, et vous l'avez évoqué aussi brièvement, en disant que le pape doit consulter, voir si telle vérité ou telle opinion est en accord avec l'Écriture, il doit consulter l'ensemble des évêques, et voire même les autres églises chrétiennes, pas nécessairement catholiques. Mais pourtant, certains dogmes, je pense rapidement au dogme de l'Immaculée Conception, celui de l'Assomption, on ne trouve pas vraiment, c'est vrai qu'on peut essayer de faire quelques rapprochements, quelques interprétations, mais au fond, y a-t-il vraiment des traces de tels dogmes dans l'Écriture ? Et sinon, peut-être qu'il y en a, mais à première vue, ça ne semble pas être le cas. Est-ce qu'on peut avoir un dogme en fait qui se passe, si vous voulez, des Écritures ? Si on peut juste se baser sur les traditions chrétiennes et les relations avec les autres églises ou avec le vécu et l'expérience des communautés chrétiennes en général ?
Eh bien, c'est une question très importante, en effet, la question du rapport entre les dogmes et l'Évangile, ou plus largement, le rapport entre les dogmes et l'Écriture sainte. Le théologien Walter Kasper, dans les années 1960, a publié un livre qui veut dire le dogme sous l'évangile, sous le dogme au-dessous de l'évangile, en quelque sorte. Et ce que je veux signifier à travers cette référence au livre de Casper, c'est que précisément, un dogme doit être en conformité avec l'Écriture. Disons, c'est le principe de base, la position de base. Et on voit bien que les dogmes fondamentaux qui ont été promulgués durant l'histoire de l'Église sont bien effectivement des dogmes qui se fondent sur l'Écriture, que l'on pense à l'incarnation, que l'on pense à la rédemption, et à bien d'autres dogmes.
Oui.
Mais il est vrai qu'il y a un problème spécifique pour certains dogmes, principalement donc pour les dogmes qui ont été promulgués à l'époque moderne ou contemporaine, où j'y faisais allusion, un dogme comme celui de l'Immaculée Conception, 1854, ou un dogme comme celui de l'Assomption, 1950. Parce que, dans ces deux cas, on ne peut pas trouver de fondement explicite de ces dogmes dans l'Écriture sainte. Mais, justement, les papes qui ont promulgué ces dogmes expliquent, dans le texte qui accompagne, ou qui précède la formule de promulgation elle-même, ils expliquent que ces dogmes ne sont pas du tout contradictoires avec l'Écriture sainte, mais qu'ils prennent acte de la conscience que l'Église a acquise progressivement d'un certain nombre de vérités qui ne sont pas forcément explicites dans l'Écriture sainte, mais qui sont finalement reconnues comme appartenant au dépôt de la foi. Et il faut être conscient du fait que, du coup, enfin, ces doctrines, ces dogmes, ne sont pas à mettre exactement sur le même plan que les dogmes de l'incarnation, la résurrection, qui reposent directement sur l'Écriture sainte. Mais néanmoins, ils sont considérés, ils sont reconnus comme des dogmes qui explicitent un certain nombre de vérités qui sont en quelque sorte implicites seulement dans l'Écriture sainte. Alors j'ajoute un point qui est très très important, c'est qu'avec cette question, nous sommes en présence d'une difficulté œcuménique.
Oui.
Parce que précisément, les protestants, par exemple, ont réagi fortement vis-à-vis des dogmes mariaux de l'époque contemporaine en disant « mais ces dogmes ne sont pas présents, ne sont pas nommés comme tels dans l'Écriture ». Et ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire, précisément, pour essayer de comprendre ce qui, malgré tout, autorise l'Église catholique à tenir ses dogmes, alors même qu'il ne dispose pas de fondement explicite dans l'Écriture. Mais ça veut dire, du coup, aussi que, pour l'avenir, si l'Église avait, éventuellement, à promulguer l'une ou l'autre affirmation doctrinale ou dogmatique sur des questions tout à fait essentielles engageant la foi, il faudrait que cela soit fait dans toute la mesure du possible, en lien, en accord, en concertation avec les églises protestantes, orthodoxes, etc. Parce que nous partageons tous, catholiques, orthodoxes, anglicans, protestants, nous partageons tous la même foi fondamentale telle qu'elle est exprimée dans le credo, et donc il serait légitime que l'on puisse se concerter avec ces églises dans l'hypothèse où il y aurait de nouveau matière à la promulgation de nouveaux dogmes.
Alors, une chose est sûre, c'est que vous avez, je pense, réussi à dissiper un certain nombre d'idées reçues, un certain nombre de clichés que nous avons sur la question des dogmes grâce à vos explications très claires. Alors, ce podcast touche à sa fin. Je tiens à vous remercier personnellement, Père Michel Fédou. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait découvrir cette notion des dogmes.
Merci.
Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à tous au revoir. Nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.
Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, Découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Thank you.